France, Russie, anatomie d'une passion.
La fermeté de Macron dans le dossier ukrainien et les menaces de Poutine font plonger la relation entre la France et la Russie dans des eaux dangereuses, des relations glaciales, un nouveau chapitre d'une longue histoire passionnelle qui lie les deux pays, les deux peuples.
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historienne Sabine Dulin.
Épisode 2, 1814, l'ennemi russe.
Je n'ai qu'un ennemi en France, et cet ennemi, c'est l'homme qui m'a trompé de la manière la plus indigne, qui a abusé de ma confiance, qui a trahi avec moi tous les serments, qui a porté dans mes états la guerre la plus inique, la plus odieuse. Tous les Français, hors lui, sont bien vus de moi. Dites donc, messieurs aux Parisiens, que je n'entre pas dans leurs murs en ennemi et qu'il ne tient qu'à eux de m'avoir pour ami. Discours d'Alexandre Ier, la veille de son entrée à Paris, le 30 mars 1814. On poursuit avec Sabine Dulin notre discussion, notre conversation sur les relations franco-russes, relations qu'on a qualifiées de passionnelles. Là, on est à un moment particulier. Il faut imaginer, 30 mars 1814, le lendemain, pas que des Russes, mais des Russes en particulier, vont entrer dans Paris. Et peut-être que là, les réminiscences de l'idée du barbare qui entre dans Paris sont présentes dans ce qu'on vient de lire dans la bouche d'Alexandre Ier, parce que les Parisiens sont inquiets.
Oui, alors là, il y a deux aspects dans ce que dit Alexandre Ier. La première chose, c'est l'impression de trahison. Lorsqu'il dit que voilà, Napoléon l'a trahi.
Voilà. Alors bien sûr, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Ça suit 1812.
Voilà. Et Napoléon l'a trahi parce qu'en fait, il y a un moment en 1807 où ils vont signer une alliance ensemble, où ils se voient sur le fleuve Niémen et ils se rendent compte. Donc c'est le fameux esprit Tilsit qui serait donc une sorte de rapprochement, d'autant qu'Alexandre Ier n'est pas quelqu'un qui est contre la Révolution. Contrairement à sa grand-mère Catherine.
Ah, c'est le petit-fils, d'accord.
C'est le petit-fils, okay. Ouais. Il a été influencé, lui, justement, parce qu'il a eu une bonne éducation de sa grand-mère. Donc, il était influencé par les philosophes des Lumières, etc. Et donc, il n'est pas complètement hostile à l'idée de révolution, a priori. Bon, il n'empêche que l'esprit de Tilsit ne dure pas, puisque finalement, Napoléon, pour des raisons diverses, et notamment le problème de la Pologne, puisque Napoléon veut rétablir la Pologne, et ça pose problème à Alexandre Ier. Bref, Napoléon va attaquer la Russie. Et donc là, c'est pour Alexandre Ier, c'est pour ça qu'il évoque la trahison. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est la débâcle du côté de la grande armée napoléonienne, et donc... les Cosaques rentrent dans Paris en 1814.
Avec la mémoire très vive de l'incendie de Moscou.
Bien sûr, puisque la grande armée est allée jusqu'à Moscou. Il y a eu cette politique de terre brûlée qui a fait qu'on brûlait tout pour éviter qu'ils puissent se maintenir. Et effectivement, il y a eu l'incendie de Moscou, ce qui n'est pas rien.
Alors les Parisiens, à ce que j'ai lu, mais peut-être je me trompe, vont être plutôt positivement surpris par les Cosaques.
Oui.
Ils craignent d'être violés, cambriolés, etc. Et en fait... ils voient des types arriver, ils disent « bah tiens, ce ne sont pas les barbares qu'on nous a dépeints depuis des années ».
Alors, c'est vrai qu'ils ont quand même un look qui peut être un peu barbare du point de vue des Français. Hein, puisque
ils sont poilus, on
d'abord,
dit.
Ils ont tous très souvent les yeux bridés, parce que c'est les Cosaques, c'est des gens qui sont... c'est des mercenaires qui se sont installés aux confins des empires. Et ils ont très souvent des origines aussi un peu tatares, etc. Ils ont par ailleurs des immenses sabres, c'est souvent des grands gaillards, etc. Donc... c'est un petit peu impressionnant. Mais effectivement, ça va devenir, par exemple, la visite le dimanche, la visite des bivouacs des Cosaques. On va voir, parce que c'est quand même exotique.
Sur les Champs-Élysées.
Voilà, on va voir les Cosaques qui, très souvent, pique-niquent, sont assis par terre et mangent. Donc ça devient finalement des bons géants qu'on regarde avec une pointe d'exotisme. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a la fameuse histoire du bistrot, parce que en fait les Cosaques, quand ils veulent à boire dans les cafés parisiens, disent vite, vite, bistre. Et ça devient donc, on dit que c'est de là que vient le mot bistrot. Voilà.
On dit ou c'est vrai? On n'en sait rien.
On aime bien raconter. Sûrement, on pense que c'est. Il n'y a pas de raison. Ça doit être vrai.
Si on est dans les mots, tiens, c'est les seuls mots qui arrivent avec les Cosaques à Paris?
Pas tellement, non, et plus dans l'autre sens, puisque depuis le XVIIIe siècle, comme le français devient la langue de la cour en Russie, il y a énormément de mots français qui rentrent dans la langue russe. Par exemple, je ne sais pas, des mots « abat-jour ». Alors ça s'écrit en cyrillique « abat-jour ».
Ils disent « abat-jour ».«
Abat-jour ».«
Abat-jour ».
ou bien cache-pot, pour un cache-pot. Ah, valet de pied, puisque, en fait, tout ce qui relève de la cour, de l'aristocratie, du luxe...
C'est pas des mots du quotidien, enfin pas...
C'est des mots français qui sont adoptés par la cour.
Et qui demeurent jusqu'à aujourd'hui.
Bah, aujourd'hui, un valet de pied, il n'y a plus tellement
d'occasion de... Mais il y a encore des cache-pots.
Alors, des cache-pots, je sais pas, je veux dire, j'ai jamais entendu un russe dire cache-pot dans une période récente,
Vous pensez que Poutine n'a pas de valet de pied ?
Je suis pas sûre qu'il utilise le mot valet de pied...
Ils vont rester combien de temps à Paris, les Cosaques ?
Il reste un moment, parce que c'est quand même une armée d'occupation.
Ouais.
Alors, l'idée, c'est quand même de restaurer la monarchie, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. Certes, Alexandre Ier peut apprécier des éléments des Lumières, mais quand même, quand il arrive à Paris en 1814, c'est pour faire tomber Napoléon et c'est pour restaurer les Bourbons.
Oui.
D'ailleurs, la première chose qu'il fait quand même, c'est une grande messe sur la place de la Concorde, là où on a guillotiné Louis XVI, qui est une messe d'expiation.
Ah voilà. Oui.
Donc, on est quand même dans le retour de la monarchie absolue, enfin, pas d'une monarchie absolue, d'une monarchie avec une charte, donc une monarchie limitée. C'est là où il a une influence, où il y a l'influence des Lumières. Une monarchie limitée, mais quand même, c'est la restauration, c'est le retour de l'Église, et c'est aussi ce qu'on appelle la Sainte Alliance. Donc, Alexandre Ier, c'est le chef de la Sainte Alliance qui réunit la Prusse, l'Autriche et la Russie, et qui va être une force contre-révolutionnaire en Europe.
Mais voilà qui est déjà très intéressant, même pour comprendre le monde d'aujourd'hui. La Russie qui se présente comme le dépositaire, le défenseur d'un ordre civilisationnel face à une France qui aurait perdu cet esprit-là et qu'il faudrait aider à retrouver. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 1830, ça fonctionne dans les cercles conservateurs français. J'ai lu en préparant notre conversation un article vraiment intéressant de Michel Tchadinov dans Philosophie Magazine sur le voyage de Custine en 1839 à Moscou, où il y va comme un conservateur qui va retrouver là-bas la France qu'il aimerait ne jamais avoir perdue. Ce voyage va changer en fait sur place, c'est-à-dire qu'il va découvrir une Russie qu'il fantasmait et qu'il est loin d'être celle qu'il imaginait être.
C'est-à-dire que Custine, il part parce qu'il a pas mal de déboires personnels, et donc il part en Russie et il a quand même eu toute sa famille guillotinée pendant la Révolution française, donc il est quand même un monarchiste conservateur. Qui veut donc aller voir le Louis XIV des Slaves, parce que Nicolas Ier, puisque donc Alexandre Ier est décédé, et Nicolas Ier lui succède en 1825. Et ça commence mal pour Nicolas Ier, puisque c'est le moment de la révolte d'un certain nombre d'officiers qu'on appelle les décembristes, qui essayent d'imposer une constitution à la Russie. Donc il va faire réprimer cette révolte. Donc Nicolas Ier arrive au pouvoir comme pour réaffirmer en fait la monarchie absolue, l'autocratie, et d'ailleurs il va en faire une sorte d'élément de l'identité nationale russe. C'est-à-dire, la nation russe est autocrate par nature, d'une certaine manière.
Intéressant ça.
Et donc Custine, il vient voir le Louis XIV des Slaves. Il dit lui-même, le problème c'est que comme je suis français, j'ai quand même été révolutionné. Donc même si je suis monarchie, j'ai quand même été révolutionné, et je ne peux pas supporter le despotisme tel qu'il existe en Russie. Alors après, c'est un tel succès son livre, en France, c'est un best-seller absolu, et les agents de la Russie vont tout faire pour discréditer Custine. Parce que,
Mais c'est incroyable à vous écouter, comme on a l'impression de parler d'aujourd'hui, je trouve. Ces liens, ces influences, ces agents d'influence, la désinformation, c'est vraiment frappant, et même la dimension culturelle, je trouve. Et pourquoi est-ce que ce livre marche tant en France en 1839 ? Parce qu'on a envie de dire du mal de la Russie ?
Alors, parce que, en fait, la russophobie ne cesse de monter en Europe, et notamment en France, d'abord parce qu'il y a la répression de la Pologne. Il ne faut pas oublier qu'en 1830, 1848, il y a le printemps des peuples.
Oui.
Donc, il y a l'affirmation des nations en Europe centrale et orientale. Et la Pologne va être réprimée en 1830. Et ça va être, je veux dire, en France, Lafayette, Victor Hugo, tout le monde prend fait et cause pour la Pologne. Et donc, c'est vraiment... Nicolas Ier est vraiment le gendarme de l'Europe. D'autant qu'il va venir, par exemple, il va aller réprimer la révolution en Hongrie en 1849. C'est une alliance contre-révolutionnaire, en fait, qu'il a nouée avec la Prusse et l'Autriche pour éviter toutes les révolutions. Donc, tous les révolutionnaires en France et en Europe considèrent que le tsar, c'est le gendarme de l'Europe et c'est donc le leader du camp de la contre-révolution. Marx, par exemple, évoque le fait qu'on a une guerre anti-jacobine en Europe. Donc c'est dans la continuation de la Révolution française.
Et je précise qu'on parle du 19e siècle,
ouais,
et que la Pologne n'est pas l'Ukraine d'aujourd'hui, mais quand même, à vous écouter, il y a des choses hyper intéressantes à tirer, même s'il ne faut pas exagérer les allées, le passé présent et les répétitions. Mais enfin, quand même, là, il y a des choses intéressantes sur le temps long qui, je pense, qui vont frapper les gens qui nous écoutent. Ce siècle russophobe, comme on l'a parfois qualifié au 19e siècle, il va trouver aussi un autre moment très puissant, c'est la guerre de Crimée, où là, les armées s'affrontent directement. C'est pas comme en 1814, où là, une armée est effondrée et les Cosaques arrivent à Paris. C'est une guerre, dites-nous, parce qu'elle n'est pas très connue en France. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'elle ne soit pas connue, parce que je crois que l'historiographie a fait qu'on l'a un peu oubliée dans ce rapprochement avec la Russie, qui sera l'objet du prochain épisode. Mais restons un moment sur la guerre de Crimée. C'est quoi cette guerre de Crimée ?
La guerre de Crimée, donc, qui a lieu entre 1853 et 1855, c'est d'ailleurs à la fin de la guerre de Crimée, Nicolas Ier meurt et il est remplacé par un tsar un peu plus réformateur, Alexandre II. Et cette guerre de Crimée, c'est une énorme défaite pour la Russie, qui est en face d'une coalition. C'est-à-dire, la Russie est toute seule face à une coalition dans laquelle il y a la France et l'Empire ottoman. Donc, la guerre de Crimée, c'est une guerre... Il y a eu beaucoup de guerres entre l'Empire ottoman et la Russie depuis le XVIIIe siècle. Donc, c'est une énième guerre. Sauf que là, tout le monde va soutenir l'Empire ottoman parce qu'on a peur de la puissance trop forte de la Russie, qui veut s'installer sur les rives de la mer Noire, voire prendre Constantinople. Et donc, on veut éviter ça. Et là, c'est une défaite cuisante pour les Russes, qui vont, à partir de là, essayer de se moderniser le plus vite possible pour être au niveau, puisque c'est une guerre très meurtrière. Mais par ailleurs, c'est aussi le moment, par exemple, d'un départ massif des populations musulmanes qui occupaient toute cette région de la mer Noire, qui vont être expulsés vers l'Empire ottoman. Et à la place, on va coloniser avec des Slaves et des Allemands la Crimée.
Et en France, quel est l'écho de cette guerre dans la presse, dans l'opinion publique ?
Ça va nourrir la russophobie et le fait qu'on présente la Russie donc comme un pays en retard, despotique. Donc ça va repousser la Russie en dehors de l'Europe.
Et les liens culturels qu'on avait vus naître sous Catherine II vont-ils être aussi détruits par ce moment de violence ?
Alors non, parce qu'il y a en même temps, il y a tous les émigrés russes qui fuient justement les despotismes russes. Donc on a Herzen, Tourguenieff, qui sont les meilleurs amis des Français. On a aussi Bakounine qui va fonder la Première Internationale avec Marx, qui est un anarchiste russe. Donc en fait, on a toute une Russie qui s'installe en Europe, qui fuit l'Okhrana, la police politique russe. Et puis par ailleurs, on a en parallèle des romans qu'on connaît tous, les romans de la comtesse de Ségur, qui est une Russe installée en France, Rostopchine, et qui contribue beaucoup à cette exotisation d'une Russie un peu barbare, le général Dourakine. Et on a aussi Jules Verne avec Michel Strogoff. Donc c'est une période aussi où on raconte une Russie, mais qui est justement très loin de l'Europe, qui
une matière romanesque.
Vers la Sibérie.
Et une matière romanesque,
une matière
lointaine,
très
barbare.
Romanesque.
Alors, pour terminer cet épisode, est-ce qu'on a des Français qui s'installent là-bas, qui font le chemin inverse, par idéologie ou par opportunisme ?
Alors, la plupart des Français qu'on a en Russie, ce sont par exemple les précepteurs dans les familles aristocratiques. Parce qu'on apprend le français. Il y a l'exemple très connu de Dans la fille du capitaine de Pouchkine, qui est un grand roman du 19e siècle. Eh bien, on a au début le précepteur français, Beaupré, qui boit d'ailleurs beaucoup trop, et qui donc élève le jeune héros de l'histoire. Où on a, bien sûr, Gogol et Taras Bulba, avec la figure du Cosaque de l'époque. Mais donc, il y a beaucoup de Français en Russie qui sont soit des marchands, soit des précepteurs, soit des conseillers à la cour.
Reste tout de même, malgré ça, et on sent bien qu'il y a des préjugés de part et d'autre, un siècle que vous avez qualifié et qu'on peut qualifier de russophobe, d'où l'immense surprise de l'alliance en 1892 entre les deux pays, une alliance qu'on peut qualifier peut-être de contre-nature, ce sera en tout cas l'objet de la discussion et de notre prochain épisode. France-Russie, anatomie d'une passion, un podcast original de France Inter.